Alors, vous avez reçu pendant plusieurs mois, ça fait 2 mois, je pense, que je vous envoie mois après mois, peut-être pas au mois de juillet puisque je n'étais pas là, mais des annonces par mail et puis vous indiquant de vous inscrire au week-end de rentrée. Vous avez reçu ces mails? Oui? Ok. Très bien. Vous vous rappelez la petite diapo que je vous avais envoyée en même temps que l'inscription de ce mail? Là, mais pas encore, hein? J'en appelle à votre mémoire visuelle. Non? Je fais un test. Si les gens lisent ce que je fais, si ce pourquoi je me décarcasse, ça aboutit jusqu'à vos oreilles, à vos yeux, à vos cerveaux. Bon, je vais vous la faire passer quand même. Voilà. Vas-y, envoie-la, Alexis. Voilà. Donc, c'est pas tellement l'image là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est aux États-Unis peut-être des Quakers, des Amish, vous voyez, qui construisent ensemble une maison, apparemment assez grande, peut-être une église, hein, je ne sais pas. Voilà. Et puis, c'est surtout ce verset que je voulais mettre l'accent. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça va? Vous avez récupéré maintenant? Vous êtes en mémoire? Alors, je suis désolé parce que j'aurais pas dû mettre ce verset-là. Et je suis étonné qu'il n'y ait personne qui est venu me dire, Norbert, tu as fait une erreur en mettant ce verset-là. Si, 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 parce que moi, je m'en suis rendu compte. Parce que ce verset-là, ça fait partie d'un tout, et ceci n'est que la conséquence d'un verset qui précède. Et est-ce que vous vous rappelez de ce verset? On va le lire ensemble. C'est 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10. J'ai le désir, nous avons le désir, avec Pascal, avec le conseil de l'Église, que notre assemblée soit une assemblée qui soit fondée sur Jésus-Christ, qui soit centrée sur Jésus-Christ. Si j'ai mis ce verset-là après édifiez-vous, je décentre. Quelque part, je mets la pression sur vous et je n'enseigne pas sur Jésus-Christ, alors que je suis appelé, nous sommes appelés à enseigner sur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre va dire, donc, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque je priais pour notre rentrée, tout ça, j'avais flashé sur édifiez-vous, ça veut dire que j'allais appeler à vos forces, à votre être intérieur. Mais le Seigneur m'a repris lorsque je priais pour ce culte et je priais pour ce message. Il m'a dit, tu te trompes, Norbert, ce n'est pas sur ça que tu dois appuyer, c'est sur moi. Pierre vivante et à laquelle nous sommes appelés à nous approcher. Vous voyez? Et c'est tout à fait une différence. Je plaçais la pression sur vous, alors que la pression, en fait, elle est sur Jésus-Christ. C'est lui qui porte l'Église. C'est lui qui est au centre de l'Église. C'est lui qui la maintient. C'est lui qui la forme. C'est moi. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui le dit. Et ça change. Alors, nous allons lire la suite du verset pour être. C'est peut-être un petit peu petit. Alors, si vous avez vos Bibles, lisez sur vos Bibles. Voilà. Donc, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple dispersé. Et qui maintenant être le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Seigneur Jésus, Donne-nous la joie, Seigneur Jésus, à entendre encore comme pour une première fois ta parole, Seigneur. Donne-nous la joie de réaliser tellement ton plan est merveilleux, tellement ton plan est grand, Seigneur Jésus. Comment tu es merveilleux. Donne-moi la joie, Seigneur, que j'ai pu ressentir en lisant ce verset comme pour une première fois. Donne-la à l'Assemblée, Seigneur, aussi, pour que nous puissions vraiment être dans la joie ensemble, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Oui, alors le texte que l'apôtre Pierre a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit nous parle d'une pierre vivante, une pierre sur laquelle d'autres pierres vivantes sont appelées à s'aligner ou à se fonder pour former ensemble une maison spirituelle, un temple. Et dans ce temple sont offerts des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu. Alors je vais surtout parler du verset 4, « Approchez-vous de Dieu, pierre vivante, rejetée. » Il nous est parlé d'une pierre avec trois caractéristiques. Elle est vivante, la pierre, elle est rejetée par les hommes, mais elle est précieuse, choisie et précieuse pour Dieu. Mais avant de voir ces caractéristiques, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Vous connaissez la réponse, c'est sûr. Qui est cette pierre? Qui est cette pierre? Alors Pierre nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de lui. Alors c'est écrit dans l'épître de Pierre et il parle de Pierre, on pourrait dire peut-être il parle de quelque chose qui est en référence à sa personne. La pierre dont il parle, ce n'est pas Pierre, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? En fait, il emploie dans ce mot un mot grec que vous connaissez peut-être parce que ça résonne dans le français, c'est lithos. Lithos, d'accord? Jésus avait fait un jeu de mots avec Pierre, avec son propre nom. Vous vous rappelez? Qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un des prophètes. Mais Pierre, sous la révélation du Saint-Esprit, lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment, Jésus fait ce jeu de mots. Tu es Pierre, Pétros, non pas Lithos, Pétros. Et sur cette pierre, Pétra, eh bien, je bâtirai mon église. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous voyez? Donc l'apôtre Pierre ici ne cite pas Pétros, Pétra, qu'il aurait pu employer. Il emploie à juste titre un autre mot, lithos, pour désigner la pierre vivante. Donc Pierre ne parle pas de lui, il parle de Jésus-Christ en utilisant l'image de la pierre vivante. Et pour bien comprendre l'image que Pierre utilise, eh bien, il va nous falloir faire de l'archéologie ce matin, voire de l'histoire. Hein ? Je dirais même qu'il faudrait peut-être aller puiser avec des coups de pioche dans la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est comme une mine inépuisable. Vous prenez une pioche, vous prenez du temps, un petit peu de temps, et vous piochez dedans, vous allez voir des joyaux extraordinaires, des trésors que vous n'avez pas soupçonnés. Et moi, j'ai voulu faire un petit coup de pioche, là, regarder pourquoi pierre vivante, etc. Où est-ce que ça me menait? Et vraiment, j'ai été ébloui par la grandeur de la parole de Dieu, tellement elle est liée, il y a une cohérence de la parole de Dieu qui est extraordinaire. Moi, ça m'épate tout le temps quand je vois ça. Et ça me réjouissait. Lorsqu'on plonge les regards dans la parole de Dieu, on en sort toujours enrichi. Et c'est extraordinaire. Voilà, donc j'ai donné quelques coups de pioche. On peut lire l'épître de Pierre comme ça, d'une seule traite, et puis ça nous parle, ça ne nous parle pas. Mais Pierre, il cite des versets de l'Ancien Testament. Alors, j'ai été un peu curieux, je suis allé voir les versets de l'Ancien Testament. D'accord ? Et il cite en particulier le psaume 118. 118, alors, voilà, c'est marqué, ça commence comme ça, « Louez l'Éternel car il est bon ». Car sa miséricorde dura toujours. Lui aussi, il a chanté un Alléluia. D'ailleurs, le psaume 118, c'est le psaume qui ferme ce qu'on appelle les cinq psaumes du Hallel, où il y a le mot Alléluia tout le temps. Voilà. Et que dans la liturgie juive, on chante et on récite à chaque fête de pèlerinage. Et le psaume 118 est le psaume où on s'arrête. Voilà. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. et c'est répété trois fois, hein, qu'Israël dise « sa miséricorde durera toujours », que la maison d'Aaron dise « sa miséricorde durera toujours », etc., etc. Trois fois, « car sa miséricorde durera toujours ». Waouh ! Et puis le verset 22, un tout petit peu plus loin, le verset 22, « la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » C'est un cantique que l'on chante aussi, mais on le déconnecte du psaume 118, parce que vous allez voir, c'est quand même assez grave. Il y a dans ce psaume une profondeur de joie, mais aussi, je dirais, de combat, que peut-être on ne s'en rend pas compte. Vous voyez ? Jésus a chanté ces psaumes, c'est marqué que à la fin de où il commémore la Sainte Cène, c'est marqué, et ce n'est pas pour rien que dans l'Évangile nous est marqué, qu'après avoir chanté les psaumes, ces psaumes-là, et le psaume 118, qui était le dernier de la liturgie, eh bien, il va à Gethsémané. Vous voyez ? Et donc, Jésus chante ce chant. La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Jésus, lorsqu'il chante, il sait qui il est. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'on va le rejeter. C'est extraordinaire. Moi, je me suis mis à genoux, j'ai adoré le Seigneur, voyez. Et c'est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quand l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est en vue de la joie qu'il s'est donné, voyez. Dans Gethsémané, il y a un moment qui est tragique. Il va être rejeté par les hommes, mais en même temps, il y a un moment de joie extraordinaire parce que c'est pour les hommes. C'est pour nous les hommes. Alors, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Regardez ce que j'ai souligné. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Jésus, il chante ça avant Gethsémané. C'est lui la victime, c'est lui qu'on va lier, c'est lui. Waouh! Je ne sais pas quels étaient les sentiments de Jésus à ce moment-là, mais moi je me suis dit, Seigneur, je te remercie. Je te remercie vraiment profondément, Seigneur, parce que tu es vraiment ce Dieu qui se donne totalement, entièrement. Ce n'est pas un hasard qu'il est mort sur la croix. Il vient, il s'est livré pour nous. Vous voyez ? Merci, Seigneur. Je sais que quand Jésus a chanté ce psaume, il a été fortifié par les paroles qui parlent de lui. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ce psaume 118, alors j'ai creusé encore un petit peu plus loin, j'ai pioché un petit peu plus loin. Le psaume 118, les savants, j'en suis pas un, j'ai été voir un commentaire, pensent qu'il a été composé au moment de la reconstruction du temple, au retour de l'exil, des Juifs qui ont été déportés à Babylone. Vous voyez ? Ça se passe en moins 536 avant Jésus-Christ. Et on va lire Esdras 3:10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph avec les cymbales, les Antoine, les Sarkis, là, les Nadal, et toute l'Église, afin qu'ils célébrassent l'Éternel. D'après les ordonnances de David, roi d'Israël, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Les psaumes, les paroles du psaume 118, extraordinaire. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce que quoi ? On posait les fondements, la pierre d'angle de la maison de l'Éternel. Waouh ! J'ai dit, Seigneur, c'est génial. Et j'ai creusé un tout petit peu plus loin encore. Et je vous rappelle simplement qu'au retour de l'exil, il y avait, donc ils étaient guidés par deux personnes, un qui s'appelait Zorobabel. N'appelez pas vos enfants comme ça, c'est pas très joli, mais bon, il s'appelle comme ça. Zorobabel et un autre qui s'appelle Josué. Josué, c'est un peu plus commun dans les familles chrétiennes. Voilà. Zorobabel était le prince qui était descendant de la lignée de David et Josué était le grand prêtre. Et ils ont mené un certain nombre de personnes donc à reconstruire le temple. Ils étaient aidés par deux prophètes qui s'appellent Agé et Zacharie. D'accord ? Et Zacharie, lorsque le peuple d'Israël, le peuple de Juda arrive à Jérusalem, qu'est-ce qu'il voit ? C'est une ville qui est détruite, une ville qui est rasée. Le temple a été détruit par le feu. Alors vous pouvez imaginer, nous on contemple des ruines chez nous à Nîmes, hein, il y a des ruines mais qui sont bien restaurées quand même. Voilà. Mais imaginez voilà, des ruines non restaurées que les touristes ne visitent pas. Les prophètes disent qu'il y avait des renards et des chacals qui passaient dans la ville. C'était une ville qui était pratiquement inhabitée. Hein. Et ils décident de reconstruire. Et ils ont devant eux une grande montagne. Une montagne de quoi ? D'immondices. Une montagne de déchets. Une montagne de ruines. Alors, Zacharie a cette parole pour Zorobabel. Il lui dit, « Non par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Et après, « Qui es-tu, grande montagne, devant l'Éternel ?» De toi sortira la pierre d'angle. Vous voyez ? Est-ce que je l'ai marqué ? Je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas marqué. Mais Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Voilà. Je vous rappelle quand même que c'était un défi de reconstruire quelque chose qui était détruit. Alors, il ne faut pas faire d'anachronisme, je le répète souvent, moi, ça, dans mes messages. Ils n'avaient pas de bulldozer, ils n'avaient pas de quoi, de grue, ils n'avaient pas de marteau, je sais pas comment on dit, marteau-piqueur. Ils avaient quoi ? Ils avaient les forces des bras, les chameaux. Bon, ils connaissaient quand même le principe du levier, des ânes. Voilà, ils connaissaient ce genre de choses. Mais enfin, c'était quand même un travail qui était titanesque, à mon avis, vous voyez ? Voilà, et ils ne se sont pas découragés parce qu'ils étaient appuyés par la parole du Seigneur. Ils savaient qu'ils faisaient une bonne chose. En déblayant cette montagne, je suppose qu'ils ont retrouvé cette pierre d'angle qui était la pierre d'angle de l'ancien temple et qu'ils se sont servis pour reconstruire. Vous voyez ? Que le Seigneur nous bénisse maintenant. Je voudrais vous parler de la pierre vivante. De la pierre vivante. Lorsqu'on voit une pierre, on peut dire qu'elle est grosse, qu'elle est petite, qu'elle est lourde ou légère. Mais on ne va certainement pas dire qu'une pierre, c'est quelque chose de vivant. Hein ? Enfin, peut-être certains, mais bon, moi, en tout cas, je ne le dirai pas. En fait, Pierre dit... avec ses propres mots, Jésus-Christ, c'est du solide. Jésus-Christ, c'est du solide. C'est du ferme. Ésaïe va dire que l'Éternel est le rocher des siècles. Dieu est quelqu'un de ferme, quelqu'un de solide, sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Mais sa solidité ne fait pas de lui un monument. C'est une pierre vivante. Et là, je vais, comme la semaine dernière, je vais combattre un peu avec vous et avec moi. Jésus-Christ, il dit de lui-même qu'il est la vie. Il a la vie en lui-même. Ça, c'est dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Et il est celui qui donne la vie. Il y a tout un long discours dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean sur ce qu'est la vie. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Fils donne la vie à qui il veut. Ou encore, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais quelle tristesse à la fin du discours lorsque je lis dans l'évangile de Jean « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous, nous avons une vie que nous recevons. Nous ne pouvons pas produire la vie par nous-mêmes. nous ne pouvons que la recevoir. Jésus est la vie et c'est lui qui la donne. Nous sommes nous-mêmes des pierres vivantes, comment ? Simplement par réception. Par réception. Nous sommes des pierres vivantes, non pas en nous-mêmes, mais par Jésus-Christ. D'accord ? C'est à son contact que nous devenons vivants. C'est à son contact que nous devenons vivants. Je ne sais pas à quel point, parfois, et je le dis pour moi aussi, et en premier, nous ne faisons pas de Jésus un acteur du passé. Alors nous savons bien que nous sommes une église charismatique où le Saint-Esprit exerce les dons, etc. Donc on pourrait dire on est vivant. Mais contre notre gré, de manière non intentionnelle, ne pensons-nous pas, je vous pose la question, je me pose la question, que parfois on pense que Jésus il a fait un bon boulot, certes, mais que son temps est plus ou moins derrière. Tout à l'heure, on a prié, on a dit, Seigneur, ouvre les yeux pour que nous puissions te voir tel que tu es. Grand et merveilleux, comment c'est le... Grand et élevé, grand et élevé. C'est dangereux de prier ça. C'est dangereux de prier ça. Parce que si on laisse Jésus être ce qu'il est, être le Seigneur, eh bien ça chamboule nos vies, n'est-ce pas ? Est-ce que Jésus n'est-il pas devenu plus ou moins un monument pour nous ? Et non plus cette pierre vivante qui continue d'agir aujourd'hui ? Ma foi n'est-elle pas devenue un peu trop formelle ? Est-ce que je me laisse encore percuter par ses paroles ? Est-ce que je me laisse un peu transporter par ses paroles ? Ou est-ce que je suis dans ma foi bien formelle, bien assise ? Qu'est-ce que Jésus est pour nous, frères et sœurs ? La pierre vivante ? Pierre vivante rejetée par les hommes, mais précieuse. Du temps de son incarnation, il y a peu d'hommes qui ont reconnu qui il était. Tout à l'heure, je vous parlais de Pierre qui a reconnu par révélation qui il était, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a eu cet éclair donné par le Saint-Esprit et qui a ouvert sur la dimension de qui était Jésus. Mais pour beaucoup, Jésus, c'est le Fils du charpentier. C'est le fils de Marie, c'est-à-dire quelqu'un de commun, ni un érudit, ni un intellectuel, même s'il avait cette sagesse pour pouvoir parler avec les savants de son siècle. Certains vont dire même c'est un homme qui est possédé du démon. Certains vont dire peut-être en allant plus loin, il est peut-être un prophète. Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'ils n'avaient pas prié « ouvre les yeux de nos cœurs », ils n'avaient pas prié, mais Jésus les prend, les amène dans une montagne. Et le Jésus qu'ils connaissaient, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, le fils de Marie, celui qui a accompli quelques miracles, il est complètement transfiguré devant eux. Waouh ! Transfiguré, grand, merveilleux, élevé, rayonnant, une gloire sur lui, une voix qui descend et qu'ils entendent, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça c'est le Jésus, c'est notre Jésus aujourd'hui. Pierre affectionne le mot « précieux ». On le retrouve plusieurs fois dans son épître. Il parle du sang précieux du Christ. Précieux, précieux. Ce qui est précieux, c'est la personne de Jésus-Christ. Et dans l'Église, ce qui est précieux, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui la personne indispensable dans l'Église. Ce ne sont pas les leaders, comme on dit aujourd'hui, qui sont indispensables dans l'Église. C'est Jésus-Christ qui est indispensable. Ce n'est pas le programme qui est indispensable pour une Église. Ce n'est pas un bon programme qui est indispensable. C'est la personne de Jésus-Christ. Qu'il y ait un programme, qu'il y ait des bonnes personnes au bon poste, c'est bien. Mais ce serait complètement insuffisant, voire illusoire, s'il n'y avait pas Jésus-Christ au milieu de nous. Merci Elisabeth de dire amen. C'est mon rôle, c'est le rôle des responsables, c'est le rôle de Pascal, de vous dire, comme c'était d'ailleurs la mission première de Pierre, l'apôtre par excellence, l'apôtre Pierre, qui dit « Approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante ». C'est Pierre qui dit ça. « Approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante ». Et moi, à sa suite, ce matin, je vous dis à chacun d'entre vous, approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante. Et je vous répète cette exhortation, approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante. Jusqu'à quel point vous êtes prêts? Un mètre, deux mètres? Vous pouvez aller être encore plus proche de Jésus. Vous êtes à 50 centimètres? Vous pouvez être encore plus près de Jésus. Approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante. On a tous des progrès à faire, frères et sœurs, à nous approcher de Jésus-Christ. Et je crois que c'est vraiment l'exhortation que le Saint-Esprit veut que nous recevions ce matin, chacun d'entre nous. Si on veut être édifié en tant que maison spirituelle, il n'y a pas d'autre moyen que de nous approcher par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va faire ce travail de nous accrocher les uns aux autres. Parce que c'est lui qui va nous tailler afin que nous puissions être ensemble cette maison spirituelle. Mais si chacun d'entre nous, nous ne nous approchons pas de Jésus-Christ, nous faisons faillite en tant que maison spirituelle. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit, vous dit, me dit, il y a un pas de plus pour toi ce matin pour aller plus près de Jésus-Christ. Ne dis pas, je suis assez près, je suis confiant dans ma spiritualité, dans ma piété. Ne dis pas ça. Ta foi devient formelle, ta foi commence à devenir un monument si tu dis ça. Avance-toi plus près de Jésus-Christ. Il y a encore quelque chose à découvrir de Jésus-Christ. Comment je le découvre, Jésus-Christ, mes amis? Eh bien, simplement, il n'y avait pas d'autre moyen. C'est vraiment de nous plonger dans ça, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est par Jésus-Christ. Vous le savez, il le dit, Jésus. Les Écritures rendent témoignage de moi. Vous voulez être plus près de Jésus-Christ? Je veux être plus près de Jésus-Christ. L'Église veut être plus près de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul moyen. Qu'un seul moyen, par le Saint-Esprit, je veux plonger là-dedans. Alors, pour construire l'Église, pour que nous puissions être édifiés les uns et les autres comme pierre vivante, il n'y a pas d'autre moyen que celui de nous approcher de Jésus-Christ. Seigneur, eh bien, on va le faire. Cette année, je veux le faire. Par ton esprit. Est-ce que nous voulons? Ben, peut-être je vous propose avant de nous lever. Et peut-être, si vous voulez vous avancer d'un pas, ça fait un petit pas vers Jésus. Moi aussi, je le fais. Seigneur, merci pour ton message et ta parole ce matin pour notre assemblée. Seigneur, savoir que tu veux poser sous notre Église un fondement que personne ne peut enlever, ta personne. Seigneur, nous te disons, Seigneur Jésus, oui, ouvre les yeux de notre cœur. Seigneur, sois le Seigneur et fais en sorte que tu sois le Seigneur de tout, Seigneur, chez nous, au milieu de nous. Seigneur Jésus, en tant qu'Église, en tant qu'individu, je veux m'approcher plus près de toi. Et Seigneur, en tant que responsable d'Église, avec mes frères responsables de l'Église, Seigneur, nous disons, oui, en tant qu'Église, nous voulons faire un pas de plus vers toi. Nous approcher de toi, pierre vivante, et recevoir de toi tout ce que nous avons besoin. Et nous accrocher les uns aux autres par Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, amen. Amen.